Direct en jeu, la radio insolite. J'aime bien retrouver certaines personnes qui m'ont marqué, qui m'ont parlé de choses hyper intéressantes et tout. Et alors là, attention, je le fais sérieux là. Je suis avec... comment te présenter? Présente-toi toute seule. Allez, vas-y, je te laisse faire.
Alors, eh ben, écoute, je suis Anne Cangelosi. Je suis comédienne. Et puis voilà, qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai deux enfants, j'habite en région parisienne, voilà.
Quel était ton poids à la naissance? Vas-y, continue comme ça.
2,7 kg, je crois, j'étais un petit bébé.
Ah bah carrément. Et alors, c'est à ta naissance que tu as découvert le fait de dire « je veux absolument quand même faire de la scène ».
Bah écoute, ça c'était peut-être pas à la naissance, mais en tout cas très jeune, parce que... j'ai eu un prof de français qui m'a inoculé le virus quand j'avais 12 ans.
Oui, carrément.
Ouais, et parce qu'il animait un club théâtre, tu sais, ça se passe comme ça beaucoup dans les collèges. Et du coup, enfin maintenant, il va y avoir le théâtre obligatoire dans les écoles. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne décision de notre cher président. Enfin, je sais pas si ça va être mis en place, mais en tout cas.
Écoute, au premier abord, vu que dans les épreuves officielles du brevet des collèges, du bac et même des études supérieures, il y a des épreuves orales qui rentrent en ligne de compte. Le fait faire du théâtre fait qu'en effet, c'est une très bonne chose, moyen de pouvoir.
C'est vachement bien. Donc du coup, là, bah, si tu veux, c'était donc un prof de français que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Joël Villain. Et donc, il animait un club théâtre, et donc je me suis inscrite. Et puis voilà, puis j'ai vraiment découvert ça. Et puis à 14 ans, j'ai eu... ça n'a fait que augmenter, tu vois, cet intérêt et cette passion pour le théâtre, quoi. Et à 14 ans, mes parents m'ont offert une place pour aller voir Zouk au Bataclan. Mmh. Donc c'était en 81. Et là, j'ai eu un choc. Là, j'ai eu un choc à tel point que... Alors, je ne sais pas si les auditeurs sauront qui est Zouk, parce que, en fait, c'est la première... C'est une Suisse. Mmh. Et c'est la première femme qui a fait du one-man show, en fait. Mmh. Du one-woman show. Et alors, il y a une guerre un peu entre est-ce que c'est Zouk la première ou est-ce que c'est Sylvie Joly. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est Zouk. Et mon metteur en scène, Alexandre de Limoges, je pense que c'est Sylvie Joly. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une des premières, en tout cas, qui a ouvert la voie. Et c'était vraiment une comédienne à part entière. Ces spectacles n'ont plus rien à voir avec ce qu'on peut voir en ce moment. Enfin, à l'heure actuelle, en one-man show, c'était des personnages vraiment incarnés. Enfin,
c'était, un peu changé,
j'ai vraiment eu un choc à tel point que j'ai demandé à mes parents d'y retourner. Donc, j'y suis retournée et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Et comme j'avais une propension à faire rire, du coup, bah voilà, si tu veux, ça a continué. Puis c'est vrai que moi, j'ai été biberonnée avec Coluche, des proches et tous ces gens-là, quoi. Donc, et puis c'est joli aussi, vraiment. Et puis voilà. Puis après, donc j'ai continué. Puis après, je me suis inscrite dans un cours. Je suis rentrée dans un lycée où il y avait aussi pareil au lycée Molière à Paris. Mm-hmm. Donc avec un nom prédestiné. Et là, pareil, je suis tombée sur un autre prof qui s'appelait Yves Steinmetz, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs. Mmh. Et c'est lui qui a créé l'option théâtre pour être passé au bac. Donc ça, c'était en 84 ou un truc comme ça, 83, 84. Mais moi, j'étais trop... Donc l'option... En fait, il y avait deux trucs dans ce lycée. Il y avait le club théâtre et il y avait l'option théâtre qui était... à titre expérimental, en fait, tu vois.
D'accord.
Mais moi, j'étais trop vieille parce que je suis rentrée en terminale, là. Et donc, ça s'arrêtait en première. Il y avait que les secondes et les premières qui avaient le droit. Et comme ma mère était principale de la partie collège de ce lycée, elle était allée lui faire du charme. Et lui, il s'est senti obligé de m'accepter parce que j'étais la fille de la principale, tu vois. Et puis, en fait, là, il y a eu un vrai coup de foudre humain et artistique. Et voilà, et je suis rentrée au club théâtre. Et puis, il m'a offert des magnifiques rôles. Puis après, bah, il m'a gardée jusqu'en j'ai fait une prépa. Et puis après, j'ai été pionne. Donc, tu vois, j'ai tiré pour pouvoir, continuer à jouer. Donc, il m'a vraiment... Puis après, je suis partie du lycée. Donc, j'étais plus légitime, tu vois, à faire partie de la troupe. Mais je suis restée quand même 5 ans, un truc comme ça, 4 ou 5 ans. Puis après, je me suis inscrite dans un cours qui s'appelait Vera Greg à l'époque. Et donc là, je me la pétais 2 secondes, j'étais en cours avec, Karine Viard, Léa Drucker, Julie Gaillet, à qui j'ai fait passer, j'ai aidé, j'étais réplique pour quand elle a passé l'école de la rue Blanche. Et puis voilà, puis après j'ai arrêté. Après, en fait, mes parents, ça les faisait un peu flipper de que je choisisse ce métier, parce qu'ils n'avaient pas de réseau, rien du tout, ils connaissaient personne, donc ça leur a fait très très peur, et comme je suis pas forcément la reine de la confiance en moi, ils m'ont transmis cette angoisse de ce métier, quoi, voilà. Et en fait, j'ai arrêté pendant une quinzaine d'années, puis après j'ai repris, et puis voilà.
J'aime bien parce que si je peux me permettre, toi
Oui.
tu dis j'ai arrêté, moi j'adore quand même lire une phrase que j'ai lue, tu t'as enfermé tes textes avec tes rêves
Ouais.
dans une boîte à regrets,
Ouais, c'est ça.
et je trouve ça
Ouais.
très original,
Bah
c'est
oui.
tout. Et
Bah
que...
oui, c'est-à-dire que tu dis bon bah voilà, la vie c'est ça, tu rêves, t'y arriveras pas parce que c'est compliqué. Puis à l'époque en plus ce qui était magique, si tu veux, mais vraiment enfin magique pour moi parce que pour moi c'est qu'on me comparait le fameux Yves Steinmetz là du lycée Molière, quand il m'a vu, il m'a dit on dirait Zouk. Et là, tu vois, c'est quand il m'a dit ça,
Joli
bon,
compliment.
et après, quand je suis arrivée chez Vera Greig, non mais tu vois, comme quoi, moi je suis très, je crois un peu aux signes et tout ça, tu vois. Et quand je suis arrivée chez Vera Greig, je lui ai passé une scène. Et puis après, elle nous avait demandé de travailler des textes qu'on avait choisis, si tu veux. Et moi, j'ai choisi un texte de Zouk. Donc je lui ai joué ce texte de Zouk. Et elle m'a dit, et elle m'a regardé avec ses grands yeux là, elle m'a dit, mais tu sais que j'ai eu Zouk en élève.
Ah oui,
Et là, tu
d'accord.
vois, je me suis dit, ça, c'est un autre signe. Et depuis, c'est vrai que j'essaye désespérément de la contacter, tu vois, pour. Voilà, mais bon, de toute façon, elle est très malade, donc, tu vois, mais voilà. Mais mon rêve, ce serait de la contacter, tu vois, en fait, et qu'elle voit mon travail et que. Elle voit l'impact. Enfin, après, je pense qu'elle s'en fout un peu, mais en tout cas, voilà, tu vois, qu'elle sache qu'elle a touché des gens, quoi, à vie. Enfin, tu vois, qu'elle a changé la vie de certaines personnes,
Oui,
quoi.
c'est une très belle référence. Et puis, il y a 2010, et je veux dire, la rencontre de ta vie.
Ah bah oui, la rencontre de ma vie, c'est Alexandre de Limoges. Franchement, parce qu'en fait, donc j'ai arrêté, puis après j'ai repris, et puis je me suis dit bon ben. Donc j'ai repris, je suis tombée sur un autre prof qui s'appelle François Havane, qui est metteur en scène, qui d'ailleurs a une pièce pour enfants qui s'appelle Le Petit Prince, là. Il a fait une adaptation du Petit Prince qui est éligible au Molière cette année, là. Donc allez voir ça, parce que vraiment c'est à la Scala à Paris. C'est un magnifique spectacle. Et puis il a un autre spectacle qui s'appelle Kids aussi, qui est magnifique. Il a eu le prix de la presse au Festival d'Avignon, enfin vraiment super. Et donc je suis tombée sur ce mec-là. Donc on a retiré la poussière, tu vois, la rouille et tout ça. Et puis finalement, alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas trop, quoi.
D'accord.
Donc du coup voilà. Et puis alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes profs m'ont toujours dit, mais il faut écrire. Pourquoi tu n'écris pas? Je dis, ben moi, qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte de nouveau, tu vois, à ce monde-là, d'intéressant? J'avais l'impression que tout avait été déjà fait. Puis c'est vrai que quand t'es avec, quand t'admires des gens comme Zouk, Coluche ou des proches, ils ont déjà la barre très très haut, quoi, si tu veux. Donc qu'est-ce que tu veux? Bon. Et puis donc là j'ouvre un petit tiroir. Donc j'ai été élevée par, enfin j'ai été élevée. J'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc j'étais très 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 proche d'elle. Et quand elle est décédée, j'ai eu. Donc c'était quand j'étais chez Vera, j'ai eu envie de lui rendre hommage. Donc j'ai écrit un premier texte. Et puis elle l'a lu, et puis là elle m'a dit, ah c'est bien, c'est intéressant, tout ça, mais il manque 20 minutes. Et là je l'ai regardée avec des yeux ronds comme des soucoupes en lui disant, comment ça il manque 20 minutes? Elle me dit, mais un seul en scène c'est 1h10. Ah d'accord. Et
Ah
là il
oui.
y avait un énorme blocage, impossible de toucher une virgule. Et bon, bref, donc j'ai rangé mon texte, j'ai continué les cours chez Vera, mais impossible de toucher quoi que ce soit. Il y avait un gros truc, bon, donc j'ai rangé mon texte. Puis après, donc j'ai arrêté pendant 15 ans, j'ai rencontré François, et puis un jour, je lui ai passé une impro de ce personnage, de Mémé Casse-Bonbon. Et puis, il m'a dit, ah, mais c'est bien, c'est quoi ça? Alors je lui ai dit, c'est un texte que j'ai écrit, mais j'ai jamais fini. Et là, il me dit, finis-le, et puis je te mets en scène. Et là, tu vois, c'est ce que j'attendais depuis 30 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'était magique. Donc là, bon, je travaillais, moi, je venais d'avoir ma fille qui était tout bébé, donc c'était compliqué. Et donc mon ex-mari à l'époque m'avait dit, écoute, tu vas dans un café le samedi après-midi et moi je garde Juliette, notre fille. Sauf que évidemment, l'inspiration vient pas tous les samedis à 14 h, sinon ça se saurait, ça aurait été trop simple. Et donc, j'ai mis 2 ans à compléter les fameuses 20 minutes qui manquaient. Et après, j'ai passé une audition dans un théâtre, j'ai été prise. Et là, j'ai joué pendant 1 mois, 3 fois par semaine, enfin, le truc improbable. Puis voilà, puis après, je suis retournée bosser chez Alcatel, puisque je bossais chez Alcatel. Puis c'est tout. Puis un jour, j'ai eu un choc, j'ai eu une prise de conscience. Je rentrais du bureau, de la cantine vers mon bureau avec mes copines de l'époque. Et puis, je me suis dit, mais en fait, si tu ne bouges pas, dans 20 ans, tu seras toujours là. Enfin, tu feras toujours le même chemin. Est-ce que le rêve que tu as touché du doigt là, pendant le mois de juin, c'est fini, quoi. Et là, j'ai donc cherché un autre théâtre à Paris. J'avais entendu parler du théâtre Le Bou, donc à Pigalle, qui est donc dirigé par Alexandre de Limoges. Et en cherchant les contacts sur Internet, je suis tombée sur l'école du One Man Show. Et je me suis dit, bah, comme moi, j'ai une formation classique, je vais m'inscrire. Il y a peut-être des codes de jeu, des codes d'écriture que je connais pas. Donc je me suis inscrite. Et c'est là le choc, deuxième choc. Donc j'ai rencontré Alexandre. Et là, ça a été une rencontre magique, humaine et professionnelle, c'est-à-dire et artistique surtout. Et en fait, moi, je suis arrivée avec Mémé, tu vois, avec mon texte de Mémé, qui était en plus une version très théâtrale. C'est pas du tout la version que je joue maintenant. Mmh. Et donc, je lui ai fait une lecture, et là, il m'a dit, oh là là, c'est chiant, coupe-moi ça. Et il m'a coupé la moitié de ce que j'avais sué sang et eau à réécrire pendant 2 ans, tu vois. Et pendant toute l'année, on a beaucoup réfléchi, il m'a énormément aidé, on a brainstormé, enfin bref. Et donc, est arrivée la version que je joue maintenant. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais jamais eu le temps de faire un filage. Parce que dans le cursus de l'école, on avait droit à la fin de l'année à une représentation en public. Et en fait, donc moi, c'était le 13 juin 2010. Et comme j'étais à la bourre, on n'a jamais eu le temps de faire un filage. Donc lui, il a jamais vu le spectacle en entier, si tu veux, tu vois. Et quand je l'ai joué, donc il est venu voir, évidemment. Et donc j'étais un peu l'extraterrestre de service, parce qu'à l'époque, il m'avait dit, mais les personnages, c'est plus du tout à la mode. Enfin voilà, le truc. En plus, une personne âgée, c'est compliqué. Enfin bon. Moi, je comprenais pas ce qu'il me racontait avec la mode et tout ça. Maintenant, je sais, mais à l'époque, je disais, bah attends, Molière est toujours à la mode, Shakespeare est toujours à la mode, tu vois. Et puis voilà. Et puis en fait, en sortant de la représentation, il m'a écrit un mail en me disant, c'est tout à fait le genre de spectacle. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est tout à fait le genre de spectacle que j'ai envie de défendre. Donc, si tu veux, je te fais la mise en scène. Et ça a commencé comme ça. Et là, c'était magique parce que tu vois, j'attendais ça depuis 12 ans, que quelqu'un me prenne par la main et me dise, vas-y, on y va ensemble, quoi. Et puis voilà, et donc ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble. On a écrit, alors après, donc j'ai commencé avec le premier spectacle qui s'appelle Mémé Casse Bonbon. Et puis après, au bout de 4 ans, puis entre temps, moi je me suis fait virer de chez Alcatel. Donc voilà, un mal pour un bien. Et puis après, donc j'ai donné des cours à l'école du One Man Show. Enfin, je donne toujours des cours à l'école du One Man Show. Mm-hmm. Puis après, au bout de 4 ans, je lui ai dit, il faudrait peut-être écrire le deuxième. Je lui dis, est-ce que tu veux bien m'aider à brainstormer comme on a fait pour le premier? Et là, il m'a dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est coécrire avec toi. Donc, voilà. Donc, on a coécrit On n'achève pas les vieux. Et on a coécrit le dernier. Donc, On n'achève pas les vieux, c'était 2015. Et puis, On est tous le vieux d'un autre, c'est 2021, après le Covid. Voilà.
D'accord.
Et puis là, je continue ou tu me poses des questions?
Non, mais là maintenant, peut-être que tu veux l'aborder. C'est comment est-ce qu'on arrive à mettre sur une scène de théâtre un tableau?
Ah voilà, alors on y arrive. C'est-à-dire que quand on coécrivait On est tous le vieux d'un autre, Alexandre me dit, ça y est, je sais ce que j'aime faire. J'aime, alors je dis, ah bon, c'est quoi? Il me dit, je veux écrire des seuls en scène historiques. Ouais. Donc lui, il avait déjà écrit Gustave Eiffel, Enfer et contre tous, mm-hmm. qui est un magnifique spectacle aussi. Donc, s'il passe par chez vous, allez le voir, parce que vraiment, c'est super. Et puis, là, il était en train d'écrire un autre spectacle sur Akhenaton. Donc, je lui dis, oh, c'est super, c'est vachement bien. Mais je lui dis, mais tu veux écrire que pour toi ou pour les autres? Et puis, il me dit, non, pour les autres. Mais je lui dis, tu veux faire que des hommes ou des femmes aussi? Il me dit, non, tout le monde, des femmes. Et là, il me dit, je lui dis, des femmes, t'as quoi comme idée? Il me dit, par exemple, Olympe de Gouges, tu vois. Donc là, oui. T'as les yeux qui se remplissent d'étoiles, là, tu vois. Mm-hmm. Et là, donc, je l'ai regardé et je lui dis, écoute, fais-toi plaisir. Donc, je me suis montrée, tu vois, en lui disant, vas-y, fais-toi plaisir, écris-moi un truc. Bon, ok. Et puisqu'en fait, si tu veux, moi je suis comédienne au départ. Mémé, c'est pas. J'aime beaucoup ce personnage et puis elle me fait manger, mais je veux dire, moi j'ai envie de jouer. Enfin, ça fait 14 ans que je joue Mémé. Voilà, même si c'est un personnage qui est complexe à jouer et que dans les trois spectacles, il y a du fond, il y a des messages et tout ça, mais bon, voilà. Et puis, moi j'ai envie de jouer autre chose aussi, hein, et d'exister en dehors de Mémé, parce que Mémé, elle prend beaucoup de place. Et puis 3 mois après, elle revient et il me passe il donne le radeau de la Méduse. Et là, je lui dis, mais. Ah, il me dit Lee. Alors je lui dis, mais t'as rien de plus glamour que le radeau de la Méduse. Et puis en fait, c'est hyper glamour en fait.
Bah
Parce
oui, sans
que tu
doute.
vois,
Vous êtes.
j'ai lu le texte et je suis tombée dans le sujet. Enfin, vraiment, je suis passionnée par ce spectacle. C'est un truc. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que on l'a créé au Festival d'Avignon cette année-là. Et j'avais peur, moi. Je me suis dit, bon, je fais le radeau, mais je vais venir avec Mémé aussi parce que je vais backupper un peu. Moi, je pensais que j'allais avoir 3 spectateurs dans la salle, quoi. Tu vois, bon, des gens très pointus. Et en fait, pas du tout. Ça, c'était plein. Enfin, on a refusé du monde. Enfin, c'était un truc. Il y a eu une énergie autour de ce spectacle complètement dingue. Et à chaque fois que je le joue, ça crée un truc particulier, quoi. C'est très, très bizarre.
Bah, ça permet de
Voilà.
découvrir le tableau du Louvre d'une manière
Ah
différente, c'est
bah
surtout ça.
voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire que en fait, ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que le tableau, donc derrière le tableau, il y a un fait divers, un vrai fait divers. Ça s'est réellement passé. Donc c'est le fait divers est complètement indissociable du tableau et le tableau est indissociable du fait divers. Et en fait, les deux réunis, ils ont été à l'origine du plus gros scandale du début du 19e
Tout
au
à fait.
niveau politique, artistique et sociologique. Donc c'est un truc c'est très bizarre parce que quand j'ai commencé à en parler, les gens me disaient ah oui le radeau de la Méduse. En fait, je me suis aperçu que tout le monde connaît le tableau parce que c'est la culture. Enfin tu vois c'est un truc comment dire qu'on a dans la tête comme ça parce que bon on l'a vu passer et tout ça. Mais il y a très très peu de gens qui savent que derrière il y a un vrai fait divers, qu'il y a effectivement 147 personnes qui se sont retrouvées sur un radeau. Et qu'ils ont dérivé pendant 13 jours et 13 nuits, et qu'on n'en a récupéré que 15 sur les 147. Tu vois? Et il y a eu du cannibalisme. Enfin, c'est un truc dingue. C'est une histoire dingue. Voilà. Et donc, j'ai lu le texte. Donc, après, je me suis dit, bon, il va falloir que je me renseigne, parce que bah, ça amène un public quand même pointu en histoire et en histoire de l'art. Tu vois? Donc, je voulais être capable de répondre quand même aux questions. Donc, là, je me suis renseignée. J'ai lu. Des bouquins d'historiens, j'ai vu des reportages, enfin tu vois, voilà. Donc, et puis à chaque fois qu'on me pose une question à laquelle je ne sais pas répondre, je vais me renseigner, et puis voilà, tu vois, donc petit à petit, je commence à. Donc, par exemple, j'ai joué à Chartres au mois d'octobre, et il y a eu une session de questions-réponses après la représentation, et il y a un monsieur qui me dit, mais la Méduse, donc la Méduse, c'est une frégate, hein, c'est donc un très très gros bateau sur lequel il y avait 400 personnes. Et il me dit, mais la Méduse s'est échouée sur un banc de sable. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi les gens ne sont pas allés directement à la plage. Alors, je dis, mais parce que le banc de sable, il était au large des côtes. Et là, il me dit, mais à combien? Alors là, je dis, bah, écoutez, je ne sais pas. Bon, alors maintenant, je le sais, hein, c'est 50 km.
D'accord.
Et puis après, tu vois, il m'a posé ce genre de questions. Mais alors, le radeau, il était fait en bois. Alors, je dis, oui, du bois de la Méduse. Ils ont pris les mâts, enfin, tu vois. Et puis après, il me dit, oui, mais quel bois? Alors, je ne sais toujours pas hein, quelle essence était alors, je lui ai dit du bois d'arbre, mais voilà,
Bien vu.
là, je ne sais pas encore. Mais bon, en tout cas, voilà, tu vois, en tout cas, ça suscite vraiment et l'intérêt et la curiosité. Et voilà. Et en fait, alors, je ne sais pas comment. Si, je sais comment il est arrivé à. En fait, il a fait Alexandre, donc, qui a écrit le spectacle. Là, je n'ai pas co-écrit. Hein, là, il a écrit. Je suis que l'interprète. Il a fait la mise en scène et l'écriture. Et en fait, il a fait un stage de création lumière et la prof les a emmenés au Louvre et ils ont été voir le radeau de la Méduse parce qu'il y a tout un jeu de lumière sur le tableau. Et donc, elle a dû, j'imagine, raconter un peu l'histoire du truc. Et du coup, ça l'a interpellé et puis il s'est mis à se renseigner. Et puis voilà, et puis il s'est dit, il y a un super sujet. Surtout qu'en plus, c'est encore d'actualité tout ça. C'est-à-dire que, tu vois, ces gens qui étaient sur un radeau, c'était en 1816, En 2024, il y a encore des gens qui meurent sur un radeau, hein, tu vois, oui. En pleine mer. Hein. Donc, alors évidemment que ce n'était pas les mêmes objectifs, c'est-à-dire que là, ces gens-là, ils partaient coloniser le Sénégal, mais, et c'était des Français pour la plupart, mais voilà, enfin, tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de boucle là, enfin, on en est encore là, quoi, hein. Il y a encore des gens qui meurent sur des radeaux en pleine mer, quoi. Oui.
Et puis, ce qui est bien, voilà. C'est que ça permet de découvrir aussi, derrière le tableau du Louvre, on découvre toute la réalité, toute l'histoire, parce que c'est pas un tableau traditionnel. Comme tu dis, c'est une histoire vraie, et ça, c'est important.
Oui, oui, oui. D'accord. Bah, oui, oui, bien sûr. Et puis c'est sûr que quand tu sais, moi, je regarde, enfin, bon, après, c'est sûr que, après, avec le spectacle, parce que dans le spectacle, si tu veux, je parle, il y a toute la partie artistique, c'est-à-dire que je fais un peu une analyse du tableau, tu vois, les pyramides, enfin, toute la construction, les personnages, etc. Puis après, il y a une deuxième partie où je parle effectivement de l'histoire vraie, enfin, du naufrage. Et c'est vrai que maintenant, je ne vois plus le tableau du tout de la même manière, hein. Ça, c'est sûr. Ah, c'est et, je pense que les gens qui sortent du spectacle, c'est pareil.
Est-ce qu'on peut voir le spectacle actuellement ou est-ce qu'il va falloir attendre l'été pour le voir?
Alors, en fait, là, bah, comme je te disais, il y a une espèce d'énergie de dingue. Donc là, je fais la générale de presse mercredi prochain.
D'accord.
Donc, inutile de te dire que je suis un peu… voilà. Et à partir du 9 avril, donc le mardi à 19h, ça va se jouer tous les mardis à la Comédie Bastille à Paris. Donc, le mardi à 19h, du 9 avril au 28 mai. Après, je fais le Festival d'Avignon au Théâtre des Roseaux Teinturiers, à l'espace Roseaux Teinturiers à 11h30. Et après, je reprends à la Comédie Bastille à partir du mois de septembre, les lundis et mardis.
D'accord.
Normalement, jusqu'au mois de mars. Voilà.
D'accord. Une question, parce que je sais qu'il y en a qui commencent plus tôt. Tu commences quand, le Festival d'Avignon?
Le 29 juin.
D'accord, donc comme d'habitude, tu démarres plus tôt que prévu.
Voilà.
Officiellement, les dates sont au 3 juillet cette année 2024.
Voilà. Mais moi, je commence le 29, puisque le théâtre ouvre à partir du 29.
D'accord.
Donc, okay. Donc voilà. Et puis après, j'ai quelques petites dates en tournée, tu sais, qui ont été prises après ce festival-là, le festival 2023. Donc par exemple, je vais à Moret-sur-Loing le 12 mai, je crois. Après, je vais à Auxerre aussi. Enfin, tu vois, voilà.
Et donc ça permet de pouvoir le voir soit. Les gens peuvent venir en Avignon au mois de juillet, soit ils peuvent le voir aussi dans leur région. Je suppose qu'il y a un site internet, on peut trouver toutes les infos?
Sur Facebook ou Instagram, en fait.
D'accord.
Ouais. Qu'ils aillent voir mon profil.
D'accord.
Ou le voilà.
Tu t'appelles comment déjà, toi? Non, je rigole.
Anne, quand j'ai le site.
Je plaisante. Écoute, je voulais te remercier comme manière d'avoir pris tout ce temps-là. Surtout, ce qui était intéressant, c'est que tu as pris du temps pour expliquer un peu toutes les coulisses de comment tu as fait pour en arriver à cette passion, à ton métier. Ça, c'est hyper intéressant. Puis après, c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir cette démarche, que de passer un moment de détente en apprenant et d'apprendre.
Oui, et c'est ça que je pense que c'est ce que les gens aiment dans ce spectacle, parce que on rit aussi, hein. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'humour, hein. C'est ça que j'ai pas dit. C'est une conférence. Le spectacle, c'est un peu une conférence humoristique sur le tableau. Ah, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a essayé de donc le rigolo, il arrive de, enfin, le côté un peu drôle. Évidemment, c'est pas le naufrage, hein, parce que. Mais c'est le personnage, c'est cette conférencière qui est un peu déjantée, qui est un peu et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on lui a, il y a vraiment la conférence du premier degré, tu vois, du tableau, du fait divers, etc. Mais on découvre que elle a une fascination pour ce tableau et en même temps, elle le déteste, ce tableau. Mais c'est parce que c'est lié à son histoire personnelle, donc on le découvre. Je ne vais pas spoiler, mais il y a son histoire aussi, tu vois, de cette femme. Et parce que ce tableau, ce qu'il y a de passionnant, ce qu'il faut juste dire avant de nous, si on a 5 minutes, hein, si je peux continuer. Allô?
Oui, vas-y, vas-y.
Oui, oui. Pardon. Donc en fait, le tableau, le tableau, c'est le 13e jour, d'accord? Le 13e jour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Méduse, au départ, ils sont partis à 4 bateaux. Donc, il y avait la Méduse et 3 petits bateaux, un peu plus petits, etc. Bon, la Méduse se tanque dans le banc de sable et les 3 autres bateaux, eux, arrivent à Saint-Louis, donc au sud du Sénégal pour prendre possession du, du Sénégal qui nous avait été piqué par l'Angleterre sous Napoléon. D'accord ? Donc là, on est sous Louis XVIII. Louis XVIII vient de monter sur le trône et il récupère le Sénégal de l'Angleterre. Bref, les trois bateaux arrivent, hein, et puis bon, bah, ils apprennent que, je ne sais pas comment ils ont appris, parce qu'évidemment, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais en tout cas, on sait que la Méduse est échouée. Et sur la Méduse, il y avait 400 personnes, mais il y avait surtout un trésor de 400 000 francs qui devait constituer la caisse du gouvernement français au Sénégal. Donc, il y a un des bateaux qui... donc, la moitié, si tu veux, quand la Méduse s'est échouée, les nobles sont partis sur les canots de sauvetage. Ça fait un rappel un peu à Titanic, tu vois. Et puis, les autres, eh ben, ils se sont retrouvés sur le radeau. Au début, les canaux ont voulu tracter le radeau. Puis, à un moment donné, le gouverneur, il a dit, bon, allez, on coupe les trucs, là, parce qu'ils nous retardent. C'est comme ça que le radeau s'est retrouvé à l'abandon, livré à son sort, tu vois, à dériver pendant 13 jours et 13 nuits. Le bateau, il y a un bateau donc qui repart pour essayer d'aller trouver l'épave de la Méduse pour récupérer le trésor. Donc, entre parenthèses, on l'a jamais retrouvé, le trésor. Hein, on sait pas. Et en fait, ce bateau-là, il est passé devant le radeau. Donc, le 17 juillet 1816, il est passé devant le radeau à 7 heures du matin. Il les a pas vus. Et il a viré une dernière fois. Il est repassé devant le radeau à 10 heures et il les a vus. Et c'est là qu'il les a récupérés, les 15 qui restaient, tu vois, sur le radeau. Et en fait, ce tableau, il montre ça. C'est-à-dire que c'est ce moment précis qu'on voit là. C'est-à-dire que tu vois le radeau et au loin, vraiment au loin, sur l'horizon, la mer, t'as une toute petite pointe. Mais vraiment à peine visible, tu vois, c'est vraiment... Et en fait, ça montre le bateau. Et moi, ce que j'aime dans ce tableau, c'est que si tu es de bonne humeur, eh ben, le bateau arrive pour te sauver, tu vois. Tu vois les gens qui font des signes, etc. Et si t'as pas le moral, eh ben, il est 7 heures du matin et le bateau repart, tu vois. Et je trouve que c'est un tableau. Il y a plein de choses en fait derrière ce tableau. Il y a évidemment le fait divers et tout ça, mais il y a aussi plein de. C'est devenu un tableau. C'est devenu le symbole du romantisme. Hein, c'est devenu c'est un tableau où il y a plein de trucs derrière. On peut y mettre plein de choses, quoi. Voilà.
Écoute, il y a de quoi se régaler à t'écouter. Voilà. Alors, j'imagine comment dire quand on te voit sur scène. Moi, je veux te remercier d'avoir pris ce temps-là pour bien expliquer.
Bah non, mais c'est toi. Merci beaucoup. Merci. J'espère que tu viendras si tu veux.
Ah, mais de toute façon, en Avignon. Moi, j'y arrive aussi comme prévu le 27 juin, puisqu'il y a plein de choses qui vont démarrer le 29 juin. Et puis, je vais me régaler à avoir des spectacles de qualité comme le tien. Merci à toi, en tout cas.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.